Bonjour et bienvenue à l'Ancière Academy, le podcast dédié à l'ingénierie logicielle et au software craftsmanship. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn pour recevoir régulièrement du contenu sur la programmation, l'architecture logicielle, des tests automatisés et bien plus encore. Sur ce, bonne émission. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un petit peu piquant parce que ce que je vais dire vraisemblablement ne plaît pas à grand monde. Donc on va parler du domain-driven design, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, et de la façon dont il faut l'apprendre. Parce que la plupart des jeunes développeurs, et même des seniors, vont ouvrir le livre bleu, par exemple, le livre de Eric Evans, ou le livre rouge, vont le lire de couverture à couverture, vont le refermer en se disant « mais en fait, je n'ai absolument rien compris ». Ils vont tirer une partie de la partie stratégique un petit peu. Ils vont comprendre le principe dans les grandes lignes qu'il faut employer le vocabulaire du métier à l'intérieur de notre application, de notre code, ce qu'on appelle langage ubiquitaire. Ils vont lire la partie sur les bounded context et ne vont absolument rien comprendre parce que c'est incompréhensible lorsqu'on n'a pas un projet qui est énorme, lorsqu'on est une petite équipe, une petite start-up, une petite boîte et qu'on a une seule application, qu'on a un projet qui tient sur 100 000, 200 000, 300 000 lignes et qu'on a 5-6 développeurs. Bon, les bounded context, c'est peut-être pas non plus ce qui est le plus intéressant. Alors que le domaine driven design a quand même beaucoup à apporter, même si on n'exploite pas les principes des bounded context. Et ça, c'est un problème parce que Eric Evans lui-même dit que le domaine driven design, s'il devait réécrire le livre, le premier chapitre qu'il écrirait serait celui sur les bounded context. Donc, déjà, pour moi, à ce niveau-là, il y a un décalage. Il y a beaucoup à tirer du domaine driven design, aussi bien stratégique que tactique, avec un seul bounded context et une seule application monolithique. Mais par contre, il y a une chose très intéressante que Eric Evans écrit dans la préface de son livre, donc du coup dans la deuxième ou troisième page, si je ne dis pas de bêtises, c'est que le livre s'adresse à des développeurs qui ont déjà une expérience et qui pratiquent quotidiennement l'orienté objet. Et là, ça pêche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que Eric Evans entend par orienté objet est souvent très très loin de ce que les développeurs entendent par orienté objet. Et c'est un petit peu normal, parce que lorsque l'on étudie la programmation, si vous avez eu un cursus standard dans lequel vous avez étudié le Java, par exemple, ou le Python, et dans lequel on vous a fait faire un peu de programmation orientée objet, on vous a fait créer un objet être vivant, et on vous a créé une classe mammifère qui hérite de être vivant, et une classe personnage qui hérite de mammifère, et une classe guerrier qui est un personnage qui tape avec une épée. Bon, vous avez fait tout ce qu'il ne faut pas faire en PO. Mais au moins, vous avez un petit peu appris les principes d'héritage, d'objets, d'encapsulation. Ça, on vous en parle beaucoup. Hein, c'est très important d'avoir des getters et des setters. C'est pour l'encapsulation. Enfin, bref. Une fois que ça, c'est appris, vous allez passer à l'utilisation d'un framework. Ça va être, Spring, Django, Laravel, etc. Et là, tout ça va passer la trappe. Vous allez avoir un seul objet, une entité. Vous allez avoir une couche contrôleur qui va faire des requêtes. Une couche service, éventuellement, qui va s'interposer entre les requêtes et les repositories qui vont encapsuler la complexité. Et encore ça, c'est pas souvent qu'on le voit à l'école. Et vous allez directement faire mettre votre logique applicative, mélanger avec votre logique infrastructure dans vos services. Donc, c'est-à-dire que le service va récupérer des entités, va opérer sur ces entités, va les persister en base de données, etc. Tout va être regroupé au même endroit. Et à ce moment-là, en fait, tout ce que vous avez appris en PO n'existe plus et n'est même plus appliqué. À la limite, vous allez avoir une entité qui va avoir des propriétés privées, et ça va se résumer à ça. Vous avez peut-être hérité d'une classe Abstract Entity dont toutes vos entités vont hériter, et fin de la PO, terminé. Et si vous développez comme ça et que vous essayez d'appliquer le domain-driven design à votre façon de travailler, vous allez absolument rien comprendre. Parce qu'en fait, le code que vous avez écrit, avec vos services et vos entités, etc., c'est ce qu'on appelle du code procédural. Même si vous avez utilisé une classe pour créer ce service, même si vous avez utilisé une classe pour créer cette entité, c'est du code procédural. Et à ce moment-là, soit vous savez déjà que c'est du code procédural, et passer au domain-driven design va être un peu plus simple, parce que si vous savez que c'est du code procédural, vous savez en opposition ce qui est véritablement un code orienté objet, ou bien vous ne savez pas, vous découvrez en fait que c'est du code procédural, vous ne savez peut-être même pas ce que ça signifie du code procédural, et à ce moment-là, vous allez entrer dans le livre du DDD et apprendre les concepts du DDD sans rien comprendre. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de domain-driven design avec des développeurs qui ne connaissent pas très bien le sujet et qui s'y intéressent, je leur dis systématiquement, intéressez-vous d'abord à la partie tactique, c'est-à-dire à la programmation orientée objet, car une fois de plus, le domain-driven design n'a rien inventé, Et lorsque vous serez familier avec ces objets, avec vraiment des concepts qui ne sont pas très compliqués à comprendre, hein. Je parle vraiment de la base de l'APO, à ce moment-là, intéressez-vous davantage à la partie stratégique et à la partie tactique. Sachant que la partie stratégique dépend grandement de la partie tactique, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour faire votre découpe de Bounded Context, pour commencer à faire vos aggregates, pour commencer à dissocier vos entités de vos value objects, il faut que vous sachiez ce qu'est un aggregate, il faut que vous sachiez ce qu'est un value object, il faut que vous sachiez ce qu'est une entité. Vous ne pouvez pas utiliser des choses que vous ne comprenez pas déjà de base. Or, toute la partie stratégique tourne autour de cette conception-là, autour de l'utilisation de cette partie tactique pour découper son domaine en plusieurs parties qui sont plus petites et qui sont plus simples à gérer et à comprendre. Et pour ça, je vous invite à lire le livre de Martin Fowler, qui est sorti un an avant le livre bleu, et d'ailleurs qui mentionne déjà le fait qu'Eric Evans est en train d'écrire un livre sur un certain sujet, le Domain Driven Design. Et ce livre-là s'appelle Pattern of Enterprise Application Architecture. Et je crois que vers la page 60-70, bon déjà le livre parle de pas mal de patterns qui sont utilisés de façon très récurrente comme les services ou les repositories. Mais vers la page 70-80, je crois quelque chose comme ça, Martin Fowler va commencer à nous parler de domain model et de transaction script. Et c'est là le plus important, c'est le point d'entrée vers le domain driven design, c'est la compréhension de ce qu'est un domain model, un objet riche qui contient une représentation d'un concept de notre domaine, par exemple une personne, un utilisateur, un compte en banque, ou même un concept peut-être un peu plus abstrait, comme par exemple un calendrier ou un rendez-vous, et qui va encapsuler à la fois les données et les opérations que l'on peut faire sur cet utilisateur, sur ce compte en banque, sur ce rendez-vous, etc. C'est-à-dire que là où avant, on utilisait un service qui récupérait un objet, qui opérait sur l'objet en utilisant des setters, par exemple, pour modifier le nom, etc., et qui ensuite persistait cet objet, on va donner toute cette responsabilité-là à l'intérieur du domaine. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque l'on va invoquer une réservation dans un calendrier, on ne va pas avoir un service qui va récupérer le calendrier et faire les vérifications. Non, on va récupérer un objet riche qui s'appelle calendrier. Et dans ce calendrier, il y aura tout ce dont on a besoin. Il y aura l'opération en question qui consiste à ajouter cette réservation dans le calendrier. À condition que, par exemple, la personne avec laquelle la personne qui fasse la réservation, pardon, soit disponible à ce moment-là, sous réserve de certains fonds, sous réserve qu'il y ait la capacité d'accepter cette réservation. Si, par exemple, c'est une réservation pour une chambre d'hôtel, à condition que la chambre soit tout simplement disponible. Et donc, tous ces invariants-là, toutes ces règles, ce qu'on appelle des invariants, en fait, c'est ces règles-là que l'on doit vérifier pour permettre à cette action-là d'être faite. Tous ces invariants-là vont être vérifiés directement à l'intérieur de notre domain model, cet objet-là. Et finalement, cet objet-là, ce domain model qui contient toute cette représentation, toute cette logique riche à l'intérieur, premièrement, elle est isolée de tous les détails d'infrastructure, elle fonctionne avec des objets qui sont vivants, donc du coup qui sont disponibles au moment où elle fait ses opérations. Quoique, pas forcément tout le temps, mais ça c'est un autre sujet, lorsqu'on discutera par exemple des domaines services et des aggregates, mais ça c'est à voir plus tard. Elle aura tout ce dont elle a besoin pour faire cette opération-là. Et surtout, cet objet-là, étant donné qu'il est indépendant de l'infrastructure, il est entièrement testable. On peut écrire des tests unitaires dans un avion dans lequel on n'a absolument aucune connexion Internet pour vérifier que cet objet se comporte correctement. Et on peut montrer ces tests, on peut écrire des tests avec ce qu'on appelle des fixtures, donc du coup avec un langage humain, un langage courant qui sera compréhensible par des non-techs, pour vérifier que notre test et notre code et correspondent bien à ce que comprennent, à ce que font les experts du métier dans lequel est notre application. Si les experts sont dans l'hôtellerie, par exemple, ça peut être des sujets beaucoup plus complexes, on pourra montrer notre code, vu que le langage est très très proche du leur, et leur demander de vérifier qu'on a bien compris ce qu'ils voulaient dire. Et là, c'est l'importance du langage ubiquitaire. Notre test doit contenir un langage qui est discuté à la fois aussi bien par les développeurs que par les non-développeurs. On doit adopter exactement le même langage. Et lorsque l'on adopte ce langage, les tests doivent refléter ce langage pour être beaucoup plus facilement compris par les non-développeurs qui ont nous donné la confirmation que l'on a bien développé notre feature, qu'on a bien écrit nos tests et que ce que l'on a écrit est correct. Donc, toute cette logique-là dépend intégralement d'une très bonne compréhension de ce concept de domain model qui, au final, est tout simplement de la programmation orientée objet. Un domain model, c'est juste de la programmation orientée objet. Et une fois ce concept compris, acquis et maîtrisé, Tacler les value objects, les entités et surtout les aggregates devient beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je vous conseille de pas vraiment commencer par le livre bleu qui est beaucoup plus théorique et en pratique et très très peu pratique, pardon, mais de plutôt commencer par le livre rouge qui a une partie théorique aussi, mais qui le démontre avec beaucoup de code. Et c'est ça qui est intéressant avec le livre rouge, c'est qu'il donne du code, donc du coup, il donne une idée, une vision concrète à ce qu'il raconte. Et là, vous pourrez voir ces principes de value object, d'entité, d'aggregate en action. Et une fois que ces concepts-là sont compris et maîtrisés, là, vous pourrez vous plonger pleinement dans la partie stratégique. Comment est-ce que l'on va concevoir nos bounded contexts? Comment est-ce que l'on va concevoir nos aggregates? Quel est le vocabulaire à employer? Etc. Et là, je parle d'un point de vue d'apprentissage, une fois de plus. Lorsque vous apprenez le domaine driven design, je vous conseille d'abord de maîtriser la programmation orientée objet et le concept de domain model. Ensuite, de maîtriser la partie tactique, donc de comprendre les aggregates, les value objects, les entités, etc. Et ensuite, de maîtriser la partie stratégique, donc comment correctement faire ces aggregates, comment diviser en bounded context si nécessaire, sinon en modules, qui ne sont pas vraiment des bounded context, mais qui sont un moyen aussi de modulariser du code avec beaucoup moins de contraintes. Et une fois que cela est fait, lorsque vous appliquez le domaine driven design, c'est-à-dire que lorsque vous le mettez en application pour un véritable projet, vous faites l'inverse. Vous commencez toujours par la partie stratégique, et ensuite, une fois que la partie stratégique est posée, là, vous pourrez commencer à attaquer le code, à développer ses aggregates, à écrire des tests, etc., etc. Donc, pour l'apprentissage, il faut procéder de la façon inverse de l'application. On apprend d'abord par la partie tactique, par la partie technique et ensuite vers la partie stratégique. Et ensuite, lorsqu'on applique, on commence par la partie stratégique et on va vers la partie technique. Et pour cela, je vous encourage et vous invite vivement à plonger un maximum sur la véritable programmation orientée objet. C'est-à-dire pas seulement savoir que l'orienté objet, c'est le polymorphisme, l'héritage, l'encapsulation, c'est le béaba. En fait, ça, c'est ce qu'est techniquement la programmation orientée objet, mais pas ce que c'est conceptuellement. Et ça, c'est un problème. Je vous invite à lire des livres comme par exemple Elegant Object de Yego, je ne sais plus comment il s'appelle, il a un nom russe. Il est un petit peu controversé parce qu'il y a des idées qui sont très, très extrêmes, on va dire. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il vous donne un contraste énorme entre ce qu'est la programmation orientée objet pour lui et ce que la plupart des gens pensent être de la programmation orientée objet. Donc, je vous invite à lire ce livre. Il y a aussi l'article, je crois, ou une série d'articles sur les micro-objects sur Internet qui est extrêmement intéressant. Et il y a le livre de Bertrand Meyer, donc du coup en français, mais je ne pense pas que le livre soit en français, qui est extrêmement intéressant aussi, qui s'appelle Object Oriented, Software Construction, si je ne dis pas de bêtises. C'est un très gros livre, faut avoir vraiment envie de le lire, mais juste quelques pages par-ci par-là, ça contient l'essentiel de ce qu'est une bonne programmation orientée objet. Ça dit quand est-ce qu'il faut utiliser l'héritage et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser, ce que sont les interfaces, ce que sont les invariants, les préconditions, les postconditions, etc. Les rudiments de la programmation orientée objet sont là. Donc pour moi, c'est un très gros livre, mais c'est aussi extrêmement intéressant si vous avez vraiment la motivation de le lire, parce que c'est ce qui va vous aider le plus. Pour moi, c'est le livre qui va le plus vous aider à progresser en orienté objet et à vraiment maîtriser derrière le domaine driven design. Et une fois ces concepts pleinement acquis, là, vous pouvez vous jeter sur la partie tactique et enfin sur la partie stratégique. Prenez quand même le temps de lire la partie stratégique, imprégnez-vous quand même de la base, mais c'est pas trop grave si vous comprenez pas l'entièreté de la partie stratégique. Comprenez au moins ce qu'est le langage ubiquitaire, et après vous êtes bien. Une fois que vous avez terminé, que vous avez la partie tactique qui est bien acquise, vous pourrez vous lancer sur les bounded context, le context mapping, le domaine de storytelling, et différentes techniques pour mettre en place ce domaine, mais ça peut venir dans un second temps pour moi. En tout cas dans l'apprentissage, une fois de plus. Et une fois que cela est acquis, ben au final, le domaine driven design, en tant que méthodologie, c'est pas compliqué à comprendre, c'est pas compliqué à utiliser en fait. Le but du domaine driven design, c'est surtout d'attaquer une complexité qui est très très forte avec des outils qui sont pas extrêmement compliqués, mais qui sont extrêmement riches, qui rendent énormément explicite ce qui avant était plutôt implicite. Et qui font se poser des questions. Si vous regardez par exemple le livre rouge, il y a quelque chose qui n'est pas mentionné dans le livre bleu, ce sont les 4 règles des aggregates que j'aime beaucoup, qui vous font poser énormément de questions et qui vont mettre en place différents designs selon la réponse à ces questions. Et ces questions-là, il n'y a que vous et les experts du domaine qui pouvez y répondre. Et le domaine driven design vous donne les outils pour mettre en place cette conversation, et c'est ça qui est vraiment unique au domaine driven design, c'est les outils qu'ils nous mettent en place, que la méthodologie nous met en place pour soulever les bonnes questions et pour conduire le développement de l'application selon le domaine. Conduire le développement de l'application selon le domaine. Domain-driven design. Le développement, conduit par le domaine. Voilà, on a fait le tour. Donc si le sujet vous intéresse, en tout cas, c'est la méthodologie, la pédagogie que je compte appliquer dans la formation Domain-driven design que je suis en train de développer en ce moment, de co-développer avec les élèves de la Clean Architecture, déjà. Et c'est de cette façon-là que je vais enseigner le domaine-driven design. D'abord, je vais enseigner les rudiments de la programmation orientée objet. Ensuite, on va parler de la partie tactique, on va créer du code directement. On va quand même présenter le programme que l'on va créer, on va quand même soulever des questions. Mais je ne vais pas vous parler de bounded context, de mapping, etc. Je veux que ça soit naturel, que ça émerge naturellement d'un dialogue et d'un développement qui est sain. Et ensuite, on posera des mots dessus, et ensuite, on posera la question, est-ce qu'on fait plusieurs bounded context, est-ce que l'on a, quel est le context mapping entre ces différents bounded context, etc., etc. Donc, une progression qui est pour moi beaucoup plus naturelle et qui favorise l'apprentissage par des développeurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec la programmation orientée objet. Donc, si le sujet vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma newsletter ou à me suivre sur LinkedIn ou à rejoindre mon Discord sur lequel je suis très actif. Et sur ce, j'espère que ce petit podcast vous aura plu et je vous dis à bientôt.